Bonjour.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Donc c'est Solidaire d'abord. Ce soir on va avoir une émission qui va se faire en deux temps. Un premier temps sur ce qui vient de se passer, c'est-à-dire les élections municipales. Alors au niveau national et au niveau local, parce que moi j'ai des choses à dire. Parce que là,
ça me surprend ça.
Ouais, ça te surprend. Hein. Mm. Et puis après on va parler de l'avènement du travail ou plutôt de la fainéantise. Enfin je sais pas comment tu vois les choses.
Bah c'est les deux mon capitaine, les deux. Le travail et la fainéantise.
Voilà. Alors d'abord, élections municipales au niveau national, avant de parler de ce qui s'est passé au niveau local, que je trouve à la fois au niveau national comme au niveau local, désastreux pour plein de raisons. Alors pour moi, c'est plus le grand remplacement, c'est la grande confusion, c'est la grande panique à bord. Et tout le monde était content. Hein. Quand tu avais tout le monde qui te disait « Ouais, j'ai gagné !» Enfin, comme une élection normale, quoi. Hein.
Non, mais tout le monde a gagné. Ouais. Je dirais pas que c'est un échec, je dirais que tout le monde a gagné. Non, mais enfin bon, on est dans un contexte compliqué, là. Hein. Il y a 2027 qui s'approche.
Oui.
Je pense que tout le monde a les yeux fixés là-dessus.
Ah, mais complètement.
Ces municipales, ouais. Elles arrivent un an avant. C'est à la fois un coup d'essai, mais en même temps pas du tout, parce qu'il n'y a rien peut-être qui est plus éloigné des présidentielles que élections municipales. Tous les villages, toutes les communes en France, les petits villages et tout, ils vont choisir une équipe qui va administrer la ville à un niveau très local. C'est des gens qui se connaissent. On est très loin du système pyramidal français de choisir le président monarque. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même presque des élections antithétiques, les municipales et les présidentielles. Et puis après, il y a les grandes villes. Alors là, c'est une autre histoire. Mais bon...
Alors c'est vrai que moi je trouve que ça a été énormément pollué de fait par le fait que s'approche cette élection présidentielle, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé quand même un mois, donc ça jouait sur la démocratie, c'est ça qui me travaille, hein. C'est-à-dire que un mois avant définir un parti comme étant d'extrême gauche, je trouve qu'il y a quelque chose à réfléchir par rapport à la démocratie, c'est-à-dire si tu veux écarter quelqu'un d'une élection, là en l'occurrence de l'élection présidentielle, hein, c'était pas par rapport au municipal qu'ils ont fait ça, ils ont déclaré LFI comme un parti d'extrême gauche, c'est pas n'importe quoi.
C'est pas n'importe quoi. Puis moi déjà je voudrais dire à ce sujet-là, me considérant moi personnellement faisant partie de l'extrême gauche authentique et relativement la frange modérée, hein, parce que moi je suis pas pour les envoyer au goulag, les bourgeois, moi je suis juste pour les mettre aux travaux forcés, au ramassage des poubelles en bas de chez toi pour un SMIC. Je m'explique, parce que c'est une petite théorie personnelle, je pense que si tous les grands bourgeois et tous les grands grands riches de notre pays, par exemple, on les mettait aux travaux forcés, au ramassage des poubelles en bas de chez soi, non seulement pour une fois ils seraient utiles à la société, et en plus on pourrait leur jeter nos fruits pourris tous les matins, ça c'est quand même un sacré bon bonus. Donc non, tu vois, moi je suis pas pour les envoyer au goulag ou pour les flinguer, donc je suis de l'extrême gauche modérée, hein.
Ouais.
mais d'extrême gauche, si tu veux, je suis anarchiste, je suis communiste, moi qu'on dise que LFI qui sont, je le rappelle, des réformistes et compagnie, sont
l'extrême gauche,
loin
très
l'extrême
relative.
Gauche. Donc, quand on les appelle l'extrême gauche, moi ça me fait rigoler, comme je pense que toute la véritable extrême gauche se poile en France. Ouais. Là, ce qu'on voit surtout, je le vois surtout comme un enjeu du pouvoir bourgeois là, qui est bien en place depuis qu'il y a Macron, mais déjà avant. Je le vois surtout comme un enjeu de leur part d'essayer d'éliminer un adversaire potentiel.
Tout à fait.
Donc c'est de dire, en gros, le but pour nous, ça va être de charger LFI le plus possible parce qu'ils sont la seule réelle menace là aujourd'hui pour l'ordre établi bourgeois de la 5e République de 2025, de 26. Donc si tu veux, eux, leur but, ça a été ça. Ça a été en gros d'essayer leurs armes un peu, tu vois. Est-ce qu'avec nos sondages, nos plateaux télé, les institutions, parce que quand même ça révèle quand même un glissement des institutions, hein.
Ah bah oui.
C'est le Conseil d'État, hein, qui est de gauche, qui est d'extrême gauche, qui est de droite, qui est d'extrême droite. C'est un glissement de plus en plus vers la droite des institutions et pas seulement juste de la parole médiatique, pas seulement de la parole des milliardaires. Ça veut dire que tout ça, ça a un impact sur la société, de la faire glisser dans son ensemble vers la droite. Ça, c'est quand même assez inquiétant. C'est parce qu'on sait que ça va glisser toujours un peu plus, toujours un peu plus.
C'est une vraie intrusion à l'intérieur des élections. Hein. C'est une vraie... ce qu'ils ont fait au niveau médiatique et au niveau politique, tous les partis unis en train d'ostraciser l'autre... c'est vraiment quelque chose quand même qui était concerté, ils ont utilisé ça à fond.
Mais moi j'ai pas du tout une vision catastrophée là-dessus.
Moi je trouve que par rapport à la démocratie, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé.
Oui, mais enfin, si tu veux, moi j'ai pas une vision catastrophée là-dessus parce que pour moi, j'ai l'impression que tout le monde est en train de montrer son jeu. Le grand jeu de poker qui dure depuis 20 ans en France, qui est de dire que la droite, elle est quand même à peu près correcte, l'extrême droite serait presque acceptable, que le PS, ils sont censés être de gauche. Tu vois, la grande mascarade dans laquelle on est depuis 20 ans, en fait, elle est en train de s'écrouler progressivement sous le dernier mandat Macron.
C'est
en train de s'écrouler, je m'explique pourquoi. C'est pourquoi je pense ça. C'est parce qu'on voit de plus en plus que la droite, finalement, elle vendra père et mère pour rejoindre le FN s'il faut, parce que finalement, leurs intérêts, ils coïncident complètement et que le reste n'était qu'un discours. On voit que le PS n'est pas du tout de gauche et que ce n'était qu'un discours, là aussi. Donc, si tu veux, les masques tombent.
Trottmann se retrouve quand même faire alliance avec Horizon. Hein.
Non, mais oui. C'est pour ça que je dis les masques tombent et je pense que la France, depuis les élections législatives qui ont été forcées par Macron, depuis ce moment-là, je pense que la France s'en rend de plus en plus compte. Les Françaises voient de plus en plus toutes les tambouilles, toutes les trahisons, tous les revirements, toutes les hypocrisies et qu'à un moment donné, plus ça avance. Et d'ailleurs, les résultats des LFI, malgré la machine médiatique qu'il y a contre eux et politique qu'il y a contre eux, montrent bien que en fait le peuple il se laisse pas tant que ça en compter quoi.
Ah bon, c'était un petit peu le désastre pour le PS aussi et je pense que quelque part la vision est un peu en trompe-l'œil parce que le PS a été désavoué, il me semble, par rapport à certaines positions qu'il a pris dernièrement. Hein, c'est-à-dire que être en fait le supplétif de Macron, ça n'a pas plus à tout le monde. Hein. C'est sûr.
C'est sûr qu'à l'intérieur du PS, en tout cas la frange la plus à gauche du PS, c'est-à-dire plus grand-chose aujourd'hui à mon avis, mais la frange la plus authentiquement de gauche du PS, je pense qu'ils ont beaucoup de mal avec ce qui se passe au sommet de leur parti. Alors, je pense qu'ils quittent le navire assez rapidement d'ailleurs.
On va pas y rester trop longtemps parce que sinon on va pas avoir le temps d'aller sur notre fameux travail et feignantise. Moi je veux quand même dire un mot sur les élections locales parce que je suis scandalisé par plusieurs chose.
Eh ben vas-y.
D'abord, quatre listes, je trouve au ras des pâquerettes. Hein,
à Aubenas, tu veux dire ?
Oui, à Aubenas. On est d'accord, on n'est même pas une sous-préfecture, mais enfin, franchement, quand même, on est quand même une petite ville culturelle, quand même.
Aubenas, c'est quand même un cas à part. Hein. Ça fait longtemps que j'habite ou je vis à Aubenas, que je tourne autour d'Aubenas et compagnie. C'est quand même un cas à part. On a une des plus grandes villes d'Ardèche, qui serait possiblement une des plus dynamiques, qui est enfermée dans un espèce de truc de bourgade depuis des dizaines d'années, et pas de projet politique réellement à la hauteur de ce que pourrait être Aubenas en Sud-Ardèche. Aubenas, c'est compliqué. Hein. Aubenas, c'est compliqué la situation politique.
Oui,
moi, je trouve.
Si tu veux, c'est pas au niveau, quoi, quand même.
Dans les quatre listes qu'on avait, il y en a aucune qui était au niveau. Pour moi.
Oui,
moi
c'est-à-dire que théoriquement, quand même, il y a un bassin là qui est important, qui représente 50 000 personnes au moins. Hein. Et par rapport à ça, avoir si peu de projets, tu vois, des listes qui se présentent. Alors bon, moi, je vais taper sur LFI. Je vais le faire une fois. Parce que franchement. Quand même, je suis scandalisé de ce qui s'est passé. Quand même, on s'est retrouvé avec un mec qui a été parachuté, qui avait rien à faire ici. Hein. Résultat, il a tiré tout LFI vers le bas, hein, parce qu'on se retrouve avec LFI qui fait 6%, ce qui, je pense, n'est pas du tout le reflet de ce qu'est ce mouvement, qui, pour moi, est un beau mouvement. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je suis LFI, mais je suis en train de dire que c'est un beau mouvement qui est peut-être le dernier mouvement qui défend vraiment des valeurs. Des choses pour que tout le monde puisse vivre correctement ensemble, un minimum d'égalité. Et là, ce qu'ils ont fait Et c'est la deuxième fois, puisqu'ils ont fait le même coup en 2020. C'est-à-dire qu'en 2020, déjà, il y a eu une liste qui est arrivée au dernier moment, parachutée par la direction de LFI au local, qui ne veut pas qu'il y ait des insoumis.
Non, mais...
elle empêche, la direction locale empêche les insoumis.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des grosses questions à se poser quand même.
Non, mais attends, je finis quand même. Attends, la direction locale empêche que les gens soient insoumis. S'ils sont trop insoumis, elle les fout dehors. C'est quand même quelque chose, quoi.
C'est sûr que... En tout cas, sur Aubenas et le mouvement insoumis d'Aubenas, il y a de quoi se poser des questions même au bout d'un moment. Parce que déjà, le parachutage, on ne sait pas d'où il tombe, d'où il sort, qui est ce type qui arrive depuis pas longtemps, qui vient avec des propositions qui ne sont pas non plus...
Et qui ne parle pas aux insoumis historiques. Hein. C'est-à-dire que tu as quand même tout un ensemble de gens, une centaine de personnes qui sont autour du mouvement insoumis. Le mec, il ne leur parle pas. Mais, il débarque et c'est lui le candidat.
Mais j'ai l'impression que, si tu veux, même faire de la France insoumise à Aubenas, ça va finir par faire du Aubenas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que tu sois de droite ou de gauche à Aubenas, t'auras toujours le petit baron local qui viendra t'expliquer comment il faut faire et si t'es pas d'accord, tu dégages. Et j'ai l'impression que c'est comme ça de la droite jusqu'à la gauche à Aubenas.
Mais lui, de toute façon, on a
des barons locaux. Oui, mais tu dis que...
Il vient d'Annecy, quoi.
Tu dis qu'il est parachuté par la direction locale de LFI. C'est qui ces barons locaux de LFI? C'est ça la question que je suis en train de poser.
Oui, tout à fait, mais ça fait 10 ans que ça dure. Hein. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que ce mouvement insoumis qui est un beau mouvement est complètement parasité par une direction locale qui ne veut pas qu'il y ait d'insoumis, en fait.
Eh ben, comme toujours, moi, pour ça, je ne vois qu'une solution, c'est l'auto-organisation du peuple. Ouais. Il faut que les gens arrivent à suffisamment paraître ensemble en ayant le même projet, en étant soudés à la base. À faire savoir peut-être leur désaccord, leur mécontentement. Ouais. Le principe démocratique, c'est celui-là, c'est-à-dire que si à un moment donné les gens se saisissent d'un projet qui se dit, qui se veut insoumis, ça sera un rapport de force entre la direction et eux. Et s'ils sont soudés et forts et qu'ils arrivent à faire les choses comme il faut avec un bon boulot correct, ils feront tomber la direction.
Il y a une discussion avec la direction nationale, hein, comme quoi il y a quelque chose qui ne convient pas du tout à ce mouvement. Alors, après, dans les autres listes, elles sont quand même pas mal aussi. Hein. Donc, on se retrouve avec le petit-fils de Ribeyre, hein, Paul Ribeyre, le petit-fils de Paul Ribeyre.
Encore des barons locaux, quoi.
Un baron local. Donc, ce mec, ce Paul Ribeyre, a été quand même quelqu'un d'intéressant. Hein. Il était élu en 44, donc à l'époque de Vichy. Mais c'est vrai qu'il a joué un rôle intéressant à un moment où la Gestapo a voulu zigouiller plein de gens. Donc là, il s'est interposé, il est devenu un héros national. Et c'était bien. Mais par contre, après, il a été quand même dans une certaine porosité avec ce qui deviendra par la suite quelque chose de très très à droite.
Voilà. Ouais, donc en gros, tu es en train de me dire que son slogan, c'est collabo, mais pas trop, quoi.
Oui, non, j'irai pas jusque là. Bon, j'ai pas envie de.
Excuse-moi, moi je suis d'extrême gauche. Hein,
voilà, la mémoire de Paul Ribeyre, bon, voilà. Mais c'est pas tout rose quand même. Hein, voilà. Alors ceci dit, ce gars est élu à la mairie d'Aubenas, donc il faudra faire avec pendant 6 ans. Hein, il y avait aussi une liste avec Bouchon. C'était pas au niveau non plus, je trouve. C'est-à-dire que tous ces gens-là, quelque part, sont les héritiers de Meyer. Meyer qui s'est retrouvé quand même avec un... Quand on fait le bilan de ce qu'il a fait, Meyer, il a fait le château, il a fait le 18A, hein, très très bien, mais il s'est pas occupé des gens. Et la ville d'Aubenas, elle est désespérément vide quand c'est pas en période touristique. Et puis les commerces, il y a plein de petits commerces qui ferment, qui peuvent pas survivre. C'est une carte postale, quoi. Moi, je suis désolé, mais j'habite pas une carte postale, j'habite une ville, quoi.
Non, mais je suis d'accord, mais ça c'est un problème qui est constant à Aubenas depuis très longtemps, tu vois, constant. Ouais. Hein, c'est-à-dire que si tu veux, voilà quoi, c'est ce que je disais, c'est cette espèce de baronnie là locale qui ont mainmise sur les choses et on dirait que le mot d'ordre c'est surtout que rien ne change. Parce que il y a rien de vivant pour les jeunes, il y a rien de vivant pour les gens. Visiblement pour les commerces, c'est quand même très très dur d'arriver à se pérenniser à Aubenas, parce que moi ça fait 20 ans que je vois les commerces tourner tous les 2-3 ans, il y en a qui ouvrent, qui ferment, qui ouvrent, ferment. Donc on se demande pourquoi est-ce que c'est si dur quand même pour eux de s'implanter durablement à Aubenas. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Moi j'aimerais bien savoir. Donc voilà, non mais Aubenas en gros, le potentiel de devenir une vraie petite ville dynamique, forte, qui amène une vraie particularité, mais qui reste coincé à la bourgade, la petite bourgade bourgeoise bien de la campagne là, où on se fait bien chier et puis c'est tout. Et moi ça me, je trouve ça dommage parce que Aubenas, j'y ai toujours vu des forces très particulières,
choses fortes. On va se faire taper dessus de partout, hein, je te signale, mais bon.
Oh bah écoute, j'ai rien dit de bien méchant, moi. Je dis juste quelque chose que je vois depuis que je suis gamin dans cette ville, c'est tout. Hein.
C'est dommage. Aubenas mérite beaucoup mieux que ça. Enfin bon, voilà. Ceci dit, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va parler d'un autre sujet. On va avoir peu de temps, hein, parce que tu vois, il nous reste un peu plus de, il nous reste 10 minutes en gros, pour parler d'un vrai sujet, parce que là, c'est vrai que c'était pas au niveau ces élections. Bon, enfin bref. Alors là, tu voulais nous parler de l'avènement du travail comme quelque chose qui serait l'alpha et l'oméga de notre société.
Ouais, voilà. C'est à peu près ça. En fait, la question de point de départ, c'est à partir de quand on a commencé à considérer que les pauvres c'était des feignants. Ouais. À partir de quand est-ce que les gens qui sont pauvres, ça a été considéré comme des feignants, des parasites, des profiteurs, des assistés? En gros, cette espèce d'énorme masse de gens qui n'ont pas de pognon, qui sont oisifs, feignasses, qui veulent rien faire et qui profitent du système collectif sur le dos des travailleurs. Et qui sont en gros des gros parasites de la société. Chose que vous entendrez dans tous les médias, tout le temps, toute la journée, dans la langue, dans la bouche de beaucoup de politiques, etc., qui sont toujours en train de résumer et de pointer du doigt cette fraction de la population qui a pas d'argent, qui est pauvre. Il y en a de plus en plus d'ailleurs des pauvres. Et donc les pauvres, soi-disant, seraient des feignasses qui veulent pas bosser, qui ont pas l'amour du travail, la valeur du travail, etc., et qui sont des gros assistés parasites. Voilà. Depuis quand? Est-ce que c'est depuis toujours? Mais non, pas du tout. C'est pas depuis toujours. En fait, il se trouve que au Moyen-Âge, les pauvres, ils étaient pas du tout vus négativement comme ça. Au Moyen-Âge, les pauvres, ils avaient même plutôt un impact très très positif et on va dire une façon d'être vu très très positive dans la société, puisque les pauvres, en fait, à l'époque, comme un peu tout à l'époque, ça se comprenait par le biais de la religion. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, t'es dans une société féodale où le prisme de lecture et de compréhension du monde, pour absolument toutes les questions, c'est toujours les textes sacrés et la religion. Tout ce qu'on va chercher à comprendre, à interpréter et à donner du sens autour de nous, on va toujours lui donner du sens par les livres sacrés, par la religion. Qu'en dit la religion? Et la religion, il se trouve que elle parle très 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 positivement des pauvres. Puisque Jésus-Christ lui-même vivait dans le dénuement, il vivait entouré des pauvres, il parlait sans cesse de protéger les plus faibles d'entre nous, de protéger les plus pauvres d'entre nous, et c'est pas non plus par hasard qu'à l'époque, il y avait tous les ordres monastiques qui faisaient des vœux de pauvreté, il y avait même dans les familles riches des gens qui choisissaient des parrains pauvres pour leurs enfants.
Tout ça, évidemment, c'est le roman du catholicisme. Hein.
Mais oui, mais c'est un roman, si tu veux, qui a un impact réel sur la société. À ce moment-là, c'est ça le paradigme. À ce moment-là, la façon de voir le monde, c'est celle-là. D'accord ? Les pauvres, c'est des gens positifs parce que pour eux, le paradis leur est grand ouvert, tu vois, le paradis leur est grand ouvert, et Jésus disait dans la Bible, c'est dit que il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que d'entrer au royaume des cieux. OK ? Pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Donc en gros, on a compris que pour les riches, de base, le royaume des cieux, ça va être très très compliqué d'accéder au paradis.
À part s'ils arrivent à agrandir le chat de l'aiguille.
Alors, pour agrandir le trou de l'aiguille, y a une solution, c'est l'aumône, c'est d'être généreux envers les pauvres. Puisque Jésus disait, ce que vous faites au plus petit de mes frères, vous me le faites à moi. Donc, si tu aides le pauvre, c'est comme si t'es des Jésus, c'est comme si t'es des dieux, donc à ce moment-là, les portes du paradis vont être grandes ouvertes pour toi. Encore une fois, les pauvres n'ont qu'un rôle de personnage secondaire dans la grande histoire avec des protagonistes riches, hein, puisque ceux qui sont les personnages principaux de cette histoire, ce sont toujours les riches. Les pauvres ont toujours un rôle de personnage secondaire, mais cette fois-ci, c'est pas d'assister de parasites et de feignasses, c'est les gentils pauvres, les pauvres de Jésus-Christ, selon l'expression de l'époque, qui vont leur permettre d'accéder au paradis, à eux. Alors, qui sont riches
là,
sur Terre.
On essaye de cibler un petit peu mieux toute cette histoire dont tu es en train de parler. Là, on est en gros en 1500...
Ouais, on est dans le courant du 16e siècle, et avant, hein, du coup. Mais c'est dans le courant du 16e siècle que tout ça, ça va changer. Parce que jusqu'au début du 16e siècle...
Parce qu'au 16e siècle, se passe énormément de choses.
Oui, bien sûr. En fait, jusqu'au 16e siècle, c'est un peu ça la façon de voir normalisée, normative. Les pauvres sont positifs, on leur donne quelque chose, on partage avec eux, et ça nous permet d'accéder au paradis. Ils ont une place dans la société, ils ont une fonction dans la société qui est cette fonction-là, de permettre en gros finalement de voir qui est une bonne personne en fonction de comment il va se comporter avec les pauvres. Mais ça va changer tout ça parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est un moment de grande transformation mondiale, en fait, la fin du 15e, le début du 16e et tout le courant du 16e. En fait, on va revenir à ce que j'ai déjà abordé plusieurs fois par le passé, qui est la constitution de la classe bourgeoise. Comment est-ce qu'à un moment donné, il y a une fraction de la société qui va prendre de plus en plus de pouvoir ? Ce sont les bourgeois, ce sont les marchands, ce sont ceux qui vont avoir... Le contrôle sur l'entrée et la sortie des moyens de production.
Alors donc, au début du XVIe siècle, on vient de découvrir l'Amérique, on a l'imprimerie qui permet d'avoir les livres à disposition plus facilement. Il commence à y avoir des vraies réflexions sur le catholicisme, c'est-à-dire que finalement, est-ce que ce dogme va perdurer ? Est-ce qu'il est accepté comme tel ou quoi ? Il y a les protestants qui viennent expliquer que pas du tout, c'est pas ça la parole sacrée de départ. Et puis il va y avoir aussi des philosophes qui commencent à réfléchir, parce que évidemment, forcément, tout ça commence à permettre de réfléchir. Donc il y a des gens comme La Boétie, hein, qui va faire un discours sur la servitude, par exemple. Il va y avoir tout un ensemble d'éléments, de choses concomitantes qui vont permettre d'élaborer une autre société. Petit à petit, il va se construire un autre modèle.
En fait, ouais, tout le fond du problème, c'est comment est-ce qu'une société, elle va évoluer ? Comment on va évoluer du rapport classique de pouvoir qu'on a jusqu'alors avec le féodalisme, la seigneurie, les serfs, etc., vers une société qui va être de plus en plus contrôlée, ou en tout cas, la bourgeoisie va prendre de plus en plus une grande place importante dans les rapports de pouvoir dans cette société, et donc aussi les rapports de production, le travail, les marchandises, les échanges, l'économie, tout ça va devenir de plus en plus central dans cette société, sauf que ça crée des tensions avec les textes sacrés, qui jusqu'alors était l'alpha et l'oméga, pour le coup, de comment on lit la société, comment on l'organise.
C'est la rencontre de la marchandise. C'est essentiellement la marchandise qui change tout, là. C'est d'un seul coup où on se retrouve avec les manufactures qui vont petit à petit arriver par la suite.
Tout ça, ça participe du même principe. La question, c'est on va pouvoir être capable de produire des choses de plus en plus variées, de plus en plus standardisées aussi, de plus en plus grandes quantités, de les faire bouger sur des grands espaces, sur des grandes distances. En fait, on a un moment où on peut avoir toute l'activité marchande qui est en gros en train de devenir de plus en plus centrale pour tous les États européens. Et du coup, en gros, ça va générer la montée de la classe sociale qui s'occupe de ça.
Ouais. Enfin, la conscience du monde est en train de changer à ce moment-là. Entre autres, ça a commencé déjà depuis un moment, puisqu'on parlait du fait qu'il y a eu Marco Polo et que c'est certainement pas rien non plus dans l'histoire.
C'est
quelque chose qui a compté. C'est-à-dire que d'un seul coup, le monde qui était un petit peu figé avec le Seigneur, etc., avec l'Église, complètement normé, tout ça, d'un seul coup, il y a une ouverture, il y a quelque chose de différent, de possible.
Il y a des tas d'ouvertures dans des tas de domaines, en fait, à ce moment-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a la classe bourgeoise qui va chercher à en profiter pour tirer la part du feu, là, clairement. Et donc, en gros, c'est ça qui va motiver les changements de discours sur les pauvres. Parce qu'au fond, c'est ça, moi en tout cas, mon sujet aujourd'hui, c'est celui-là. C'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des pauvres qui étaient ultra positifs et qui te permettaient d'accéder au paradis, tout d'un coup, ça va devenir des feignasses, des assistés et tout ce qu'on en a dit qui a perduré jusqu'à maintenant. Et ce discours-là, de la feignasse, de l'assisté, qui n'a pas l'amour du travail et compagnie, en fait, il date déjà de cette époque-là. En fait, à partir du moment où il y a cette bourgeoisie qui s'impose, cette bourgeoisie, elle a besoin que les gens y soient au travail. Et donc, à partir du moment où elle a besoin que les gens y soient au travail, il va falloir stigmatiser tous ceux qui refusent de travailler et il va falloir encourager le travail comme étant non seulement quelque chose d'extrêmement important pour les gens, pour la société, etc., mais en plus, il va falloir former les esprits à vraiment mettre le travail au centre, la fameuse valeur travail et compagnie, à mettre le travail au centre de leur vie, parce que c'est pas du tout le cas à l'époque. J'en ai déjà parlé dans les autres émissions.
Voilà. Alors en fait, la Boétie, lui, quand il fait son discours de la servitude, il explique comment la servitude est là, en place. Et donc, il explique, entre autres, que tout ça, ça marche autour de l'habitude, par exemple. Hein, c'est-à-dire que les humains, ils ont une façon de fonctionner. Et donc, ils n'ont pas tellement envie de changer de façon de fonctionner. Et puis, une deuxième chose dont parle la Boétie, c'est qu'il dit, quelque part, on les endort. Donc, l'endormissement, c'est le pain et les jeux qui viennent déjà de la société romaine, hein, et il dit, enfin, par exemple, à l'heure actuelle, tu sais combien on joue chaque jour, je sais pas, au loto, etc., tu sais combien ça représente chaque jour?
Ça doit être des millions, largement.
59 millions par jour sont investis dans les jeux. Et puis, il y a aussi l'intérêt, c'est-à-dire on va te faire croire que finalement, toi, tu es du bon côté. Et donc, il va y avoir, contrairement à ce que fera le Front National par la suite, en nous désignant les ennemis intérieurs, hein, quelque part, comme ils le font en nous montrant les populations immigrées, on te dit que bah, finalement, tu as quand même du pouvoir et tu fais partie du modèle. Quoi.
Oui, non, mais ça, après, c'est des grandes stratégies, c'est des stratégies de discours, en fait, mais c'est exactement le sujet, c'est-à-dire que, comme tu l'as très bien dit au début, c'est Spinoza qui dit ça, qu'on est, ou la Boétie qui dit ça, qu'on est vraiment un animal d'habitude à la base. Hein.
Oui.
Mais c'est bien ça le problème, c'est que tu vois que ça va pas être fait en un claquement de doigts de faire passer le regard des gens vers un peuple qui, pauvre qui est positif, vers un peuple qui est pauvre, qui est négatif, tu vois. Et donc, ce truc-là, il va être très instrumentalisé, il va être fabriqué, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois.
Ça sera pour la prochaine fois. Au revoir.
Merci tous.